Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts produite par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Histoire de mobilité raconte les expériences internationales de chercheurs et chercheuses que la Fondation soutient.
Pour ce nouvel épisode, nous nous retrouvons avec Marie-Aude Fouéré, la directrice de l'IFRA, l'Institut français de recherche en Afrique. La FMSH travaille en étroite collaboration avec cette UMIFRE, notamment dans le cadre du programme de mobilité postdoctorale Atlas. Après avoir elle-même été soutenue par l'IFRA lorsqu'elle était une jeune chercheuse, Marie-Aude Fouéré porte désormais les missions de ce centre de recherche en qualité de directrice, avec la volonté d'agir toujours au plus près du terrain dans les recherches qui sont menées. Pour en savoir plus sur l'IFRA et sur le soutien apporté aux jeunes chercheurs dans leurs recherches en Afrique de l'Est, nous vous invitons aujourd'hui à écouter son témoignage.
Depuis 2014, je suis maître de conférence à l'EHESS en anthropologie sociale et politique. Je suis aussi au laboratoire LIMAF, l'Institut des mondes africains. Et depuis septembre 2018, je suis directrice de l'Institut français de recherche en Afrique de Nairobi. J'ai été moi-même, avant d'en être la directrice, une doctorante partiellement financée par l'IFRA de Nairobi. C'était en 2001, 2002, 2003, quand je faisais mes terrains de recherche en Tanzanie. J'ai aussi fait un post-doctorat en 2004 et 2005 sur une bourse du ministère des Affaires étrangères à l'époque. Et j'ai aussi été la chercheure pensionnaire à l'IFRA de 2011 à 2014. Chercheure pensionnaire est en quelque sorte le numéro 2 de l'IFRA. Et je pense qu'être directrice de l'IFRA, pour moi, était vraiment une manière de restituer à l'institution ce que l'institution a pu me donner. L'IFRA fait partie du réseau donc des UMIFRE. C'est aussi un institut qui avait auparavant des antennes. Donc la base était à Nairobi, il y avait une antenne au Zimbabwe, à Harare, et une antenne à Ibadan, au Nigeria. L'antenne du Zimbabwe a périclité, n'existe plus. Et par contre, à Ibadan, l'institut s'est autonomisé. Et aujourd'hui, une UMIFRE à proprement parler, qui s'appelle aussi IFRA, mais IFRA Nigeria, qu'on distingue de l'IFRA Nairobi au Kenya. Alors, il y a à la fois l'intention de ces instituts, de ces différentes UMIFRE qui existent partout dans le monde, mais qui, en tout cas dans le cas de l'Afrique, sont principalement ont été installés dans les pays de l'Afrique principalement anglophone, où la présence de la recherche française était très faible et qui permettait d'avoir sur place des infrastructures pouvant faciliter l'arrivée des chercheurs, leur terrain. Et par ailleurs de nouer des liens avec les chercheurs est-africains sur place. On se rend bien compte que quand on est là-bas, basé dans un laboratoire en France et qu'on va sur le terrain sur des missions relativement courtes, les liens qu'on peut tisser avec les collègues africains est parfois plus ténu et souvent plus difficile à maintenir dans le temps. Et donc c'est tout l'intérêt de ces instituts qui ont cette présence sur place et qui, malgré le changement des chercheurs, restent connus localement en tant qu'institution et peuvent être une institution de référence. Et il y a par exemple au Kenya un équivalent du côté des Britanniques, qui est le British Institute in Eastern Africa, avec lequel on essaye de travailler, mais qui sont deux institutions de référence pour nos collègues est-africains. Notre périmètre de couverture scientifique, on pourrait dire, concerne cinq pays d'Afrique de l'Est. Donc, il y a évidemment le Kenya où nous sommes basés, mais il y a aussi la Tanzanie, l'Ouganda. Un peu plus récemment sont arrivés le Rwanda et le Burundi. Et on a aussi une couverture sur l'est du Congo, sur la zone appelée les Kivus, la région des Kivus, qui est incluse dans notre périmètre scientifique pour la raison qu'en fait, il y a une même problématique politique, économique et sociale qui concerne toute la zone dite des Grands Lacs, et qui fait qu'on inclut cette petite partie du Congo dans notre zone de compétence, mais qui sinon, de manière plus générale, donc la RDC, Congo, dépend de l'IFAS à Johannesburg, qui est un équivalent de l'IFRA, mais basé en Afrique du Sud. Oui, alors en fait, on fonctionne, les IFRE fonctionnent alors à la fois en impulsant des recherches de l'intérieur, toujours changeantes en quelque sorte, puisqu'elles dépendent du profil des chercheurs qui y travaillent. On est aussi à la jonction, justement, et c'est notre rôle, entre la recherche française et la recherche est-africaine, de sorte qu'il y a des projets qu'on aide, qu'on soutient logistiquement ou en mettant les gens en réseau, en aidant la tenue de conférences sur place, en soutenant la formation des étudiants ou des collègues est-africains, mais qui scientifiquement ne sont pas nécessairement vraiment portés de l'intérieur par l'IFRA. Donc ça fait souvent une pluralité de thèmes de recherche qui peuvent aller dans des sens assez différents, mais notre volonté n'est pas nécessairement d'avoir une ou deux lignes directrices uniquement, mais c'est de rendre possible cette pluralité de la recherche sans chercher spécifiquement à la canaliser, à la centraliser. Et notre rôle est vraiment un rôle d'accueil de ces recherches. Donc, actuellement, on avait développé alors des projets, par exemple, en sciences politiques, sur un processus de décentralisation qui a eu lieu au Kenya depuis 2013 et qui a énormément rebattu les cartes des modes de gouvernance au Kenya entre l'État central et les responsabilités des régions. On a mis en place un programme sur un peu lié à la thématique actuelle de la décolonisation du savoir, de la décolonisation des méthodes d'enquête sur un thème qu'on a appelé intellectuel d'Afrique et de la diaspora pour faire valoir les travaux de chercheurs africains et notamment qui remettent en cause les asymétries dans la production du savoir entre les pays du Nord et les pays du Sud et ici de l'Afrique. On a également lancé de l'intérieur, mais aussi en essayant d'agréger des chercheurs qui d'ailleurs n'étaient pas tous des chercheurs de la zone d'Afrique de l'Est, sur un programme qu'on a appelé Afrique ouvrière, donc sur les mondes du travail en Afrique, sur les grandes installations d'entreprises et notamment sous l'impulsion des investissements chinois dans la région. Et sur le thème de la salarisation, alors que jusqu'à présent, énormément de travaux sur la question du travail en Afrique portaient plutôt sur ce qu'on appelle le secteur informel, la débrouille, les petits boulots. C'est qu'évidemment, chaque UMIF a sa zone dite de mandat, mais on essaye de travailler avec les autres UMIF sur des sujets suffisamment larges pour nous porter à travailler ensemble. Donc là, par exemple, on a particulièrement misé, en quelque sorte, sur le Centre français des études éthiopiennes d'Addis Abeba, en Éthiopie, pour monter avec eux ce programme sur les mondes ouvriers, qu'on avait appelé Afrique ouvrière. On accueille différents recherches, différents programmes, et notamment, par exemple, pour citer des travaux en archéologie. On n'a pas de spécialistes actuellement à l'IFRA, qui archéologue de profil, mais on soutient des travaux sur la zone du lac Turkana autant que possible. Donc ça, c'est aussi une manière pour moi de mettre l'accent sur les différentes disciplines, c'est des centres en sciences humaines et sociales de manière générale, avec aussi l'archéologie. Donc tous les chercheurs, jeunes chercheurs, collègues en poste, quelle que soit leur discipline, histoire, géographie, anthropologie, sociologie, et donc aussi archéologie, sont les bienvenus et notre rôle est de les soutenir. Concernant le programme Atlas, en partenariat donc avec la FMSH, dont l'IFRA de Nairobi bénéficie, mais aussi différents UMIF d'Afrique et dans le monde, c'est pour nous depuis plusieurs années un vrai, en quelque sorte une vraie plus-value puisqu'elle permet d'accueillir des chercheurs postdoctorants français à l'IFRA de Nairobi, mais aussi de faire profiter nos collègues est-africains des ressources que peuvent offrir la recherche en France. Du point de vue de l'IFRA, on a pu accueillir Teddy Delaunay venant travailler sur les usages dans les transports et dans les mobilités au sein de Nairobi. Ce qu'on offre à l'IFRA, c'est à la fois un bureau, c'est des chercheurs pour dialoguer avec lui. Il nous a exposé son projet, on lui a donné notre avis, nos commentaires. Donc on a discuté des différentes orientations qu'il souhaitait donner à sa recherche. On a pu lui donner quelques contacts, et notamment des contacts d'assistants de recherche, puisque une chose assez originale, c'est qu'il n'avait pas fait sa thèse en Afrique et que son post-doctorat était une première pour lui en études africaines. Nous avons annoncé sur les médias sociaux l'arrivée de Teddy à Nairobi, et même avant son arrivée, via nos réseaux sociaux, certaines personnes avaient pris contact avec lui avant même qu'il arrive sur place pour l'inviter à prendre contact avec eux et à discuter avec lui. À l'IFRA, on est une équipe très très réduite. Nous sommes 3 personnes en poste. Une personne supplémentaire, comme Teddy, qui apporte son projet de recherche, sa dynamique, qui fait venir du monde à l'IFRA, des chercheurs avec qui il travaillait, nous permet, nous, très rapidement, hein, de donner une plus forte résonance à notre travail, de nous faire connaître dans des réseaux dans lesquels on n'était pas encore présent. Par exemple, on n'était pas nécessairement très, on n'était pas actif dans la question des mobilités urbaines et ou de l'usage de la téléphonie. Ça nous permet, nous, d'accroître notre impact, d'accroître notre visibilité. Le second volet, c'est évidemment celui des mobilités dites entrantes, qui permet à nos collègues est-africains de venir faire des séjours postdoctoraux en France. Et le cas dont je peux témoigner est celui donc d'un historien rwandais, Philibert Gakwanzire, et qui a pu bénéficier de cette bourse l'an dernier pour pouvoir passer 3 mois en France et continuer, alors principalement, à mener des recherches dans les archives en France, mais aussi dans les archives en Belgique. Il travaille sur le génocide au Rwanda, et une partie des archives dont il a besoin se trouve en Europe. Alors, le profil de Philibert, c'est un chercheur qui était déjà relativement bien inséré dans les réseaux français. Il est connu des chercheurs travaillant sur le génocide au Rwanda, autant en Belgique qu'en France. Donc, sa venue, au-delà du fait qu'il a pu consulter les archives, lui a permis de maintenir les liens avec ses collègues rwandistes. Il les a rencontrés fréquemment à Paris, à Bruxelles. Il a eu l'occasion de présenter son travail dans des séminaires. Donc, ça lui a permis de maintenir, renforcer sa présence dans les réseaux rwandistes et de mener à bien son travail, puisqu'il a en plus pour perspective de travailler sa thèse pour qu'elle devienne un ouvrage, et qu'il souhaitait aussi travailler sur différents articles et les conseils reçus par les collègues au moment de son séjour en France lui ont été très utiles pour avancer dans ses travaux d'écriture. J'ai pu rencontrer Philibert à Kigali. Je ne suis pas allée exprès pour rencontrer Philibert, mais j'avais prévu un séjour au Rwanda et j'ai pu le rencontrer avant qu'il vienne en France. On a donc déjà pu discuter en amont de son projet. Je suis aussi venue en France pendant qu'il y était pour une réunion, et j'ai pu le rencontrer et on a pu discuter de ses avancées, de ce qu'il avait réussi à faire et ce qu'il avait encore à faire. J'ai pu le conseiller notamment sur des stratégies de publication pour placer au mieux les articles qu'il souhaitait travailler. Et tout récemment, voyant la qualité de ce chercheur, son désir de travailler, son enthousiasme être un chercheur le meilleur dans son domaine, on lui a proposé de faire partie du comité de rédaction d'une nouvelle revue que les UMIF viennent de lancer. Et donc, c'est à la fois, hein, je dirais, une sorte de double bénéfice. Ce programme permettant aux chercheurs d'accroître son insertion dans la recherche, ses capacités à écrire, de mener au mieux son travail. Et aussi, donc, à la fois, et lui, de l'insérer aussi dans tout ce qui est le domaine de l'édition et de la publication dans le domaine académique. Mais de notre point de vue, insérer des chercheurs, avoir des chercheurs dans nos revues universitaires, dans nos comités de rédaction, chercheurs africains, est aussi quelque chose de très important. Donc, on a une réciprocité, hein, de bénéfices grâce à ce programme. Dans les années à venir, l'IFRA va continuer sur sa ligne, hein, de petite structure avec quand même une faiblesse en ressources humaines qui fait qu'il est essentiel pour nous d'agréger au maximum, d'utiliser les programmes en place pour la mobilité, pour les affectations des chercheurs ou les détachements. Et permettre d'avoir une équipe un peu plus solide, même si c'est ce que j'appelle une équipe peut ne durer que 6 mois, puisque cette mobilité parfois peut être relativement courte, mais qui nous permet vraiment de renforcer notre action, notre visibilité, et ne serait-ce que créer aussi une ambiance dans le travail. Parce que plus on est, plus il y a un entrain à la recherche, plus il y a un dynamisme, un enthousiasme à travailler ensemble. Donc, le maintien de ces programmes de mobilité, et même possiblement, hein, d'en initier de nouveau, est pour nous vraiment un aspect fondamental pour que les UMIF, hein, continuent à vivre, restent pertinentes.
Depuis plus de 50 ans, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme soutient la recherche et la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales. Avec les voix de Amandine Sanson et Emmanuel Korn, sur une musique de Irina Jiménez, ce podcast est produit et réalisé par FMSH Audiovisuel.